Il est 10h. Bon dimanche sur RVE.
Voilà, ravi de vous retrouver donc pour Tribune Foot, hein, de retour après l'émission Tribune Sport de la semaine dernière, émission de 2 heures. Alors on a une riche actualité sportive, on vous l'a dit, et parmi cette riche actualité sportive, eh bien on aura aussi le match choc hein, du derby du Rhône-Alpes, Lyon-Saint-Etienne, qui clôturera donc cette 22e journée. Alors on devait avoir Monsieur Jean-Pierre Morillon ce matin, et puis malheureusement un deuil eh bien, a frappé sa famille, donc on a différé ce rendez-vous, et on a donc la section foot de Buc. Alors là aussi, on va avoir une bonne nouvelle par contre. Puisqu'on a donc Mickaël Delmar qui est avec nous. Mickaël, bonjour.
Bonjour.
Merci en tout cas d'être venu dans des circonstances un peu particulières parce que, allez, dans quelques heures, vous allez être papa.
Bah, certainement, oui. Peut-être aujourd'hui ou on va voir ça dans la journée.
Ouais, donc. Alors, pour tout vous dire, vous avez failli ne pas être là ce matin. Oui. Et puis, bon, ce sont des circonstances très exceptionnelles. Et puis, finalement, l'avenue de ce nouvel enfant va arriver donc dans quelques heures.
Bah, peut-être quelques heures, ou alors on va me dire d'aller ramener ma femme et de l'amener à la maison pour attendre encore un petit peu, parce que le petit bout se fait attendre.
Donc, voilà. C'est un garçon, c'est ça?
C'est un petit garçon.
Hein, on dira pas le prénom, mais on va en tout cas lui souhaiter et lui dédier cette émission. Voilà.
Merci beaucoup. Hein,
voilà, très bien. Donc émission Tribune Foot, donc on l'a dit, section foot de Buc. Alors d'abord un petit mot, à quand on remonte ta passion pour le foot? C'est arrivé comment?
Ah bah le foot ça remonte à très loin quoi.
Dans le berceau comme ce petit garçon.
Ouais, quasiment oui.
Qui est arrivé.
Ça remonte à très très loin et puis j'ai pas décroché depuis quoi.
Ouais.
À 37 ans j'y suis encore.
Ouais. Ça a commencé comment? À 5 ans, 6 ans dans des clubs à Buc non déjà ou...
Non, j'habitais en Allemagne à l'époque.
Ouais,
et je jouais dans les équipes militaires en tout jeune et comme ils mélangeaient adultes, adolescents, moi j'étais tout petit et je jouais avec eux et puis après rentrer en France. J'ai continué.
Donc, d'accord. Alors, on va parler du foot à Buc. Alors, on va aussi avoir une petite pensée pour votre présidente qui s'est accordé un petit week-end de repos du côté donc, des pistes de ski.
Mm-hmm. Hein.
Mais enfin, bon, elle pourra réécouter cette émission sur Internet. Alors, le bilan qu'on peut faire à mi-saison pour votre club? Là, pour l'instant, au niveau, je dirais, un peu des résultats, des championnats.
Sur l'ensemble, ça reste relativement bien. Pour l'instant, on est pas mal. On a pas mal d'équipes qui marchent bien. Et on est plutôt dans les milieux de tableau de... Mmh. En général.
Ouais, vous êtes combien de licenciés cette année là?
Alors cette année, on est à 233 licenciés.
Oui, 233, c'est bien. C'est pas... Ou alors, ça vient beaucoup plus loin.
C'est chez les jeunes, c'est essentiellement tous de Buc. Après on va aller sur les alentours, sur Versailles, sur Guyancourt, voisin, en senior, il y a beaucoup de Guyancourt voisin et Montigny, et un peu moins de Buc parce qu'ils sont tous partis avec leurs études, avec leur travail.
Mmh.
Donc ils reviennent à Buc, certains par passion parce qu'ils aiment bien le club, mais chez les jeunes c'est essentiellement Buc. Oui.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs de foot aux alentours de Buc, hein, voisin, Montigny, même Maurepas, Versailles, donc quelque part, ça vous enlève un peu de monde.
Ah ben on est très entouré, oui, c'est sûr que la concurrence est rude à ce niveau-là.
Il y a beaucoup de bons derbys alors.
Il y a beaucoup de bons derbys, oui, mais c'est vrai que la concurrence est rude au niveau des effectifs, c'est parce que tous les gamins qui pensent ou qui ont un niveau un peu plus sérieux se dirigent vers des clubs un peu plus huppés que Buc, qui est un peu moins connu, et donc vers Versailles, vers les alentours.
Mais ça arrive qu'il y ait un chassé croisé.
Oui, ça arrive. Oui.
On part par Versailles et puis on revient à Buc ou on va dans le club.
Oui.
Oui.
Ceux qui, du moins, moi en senior, ceux qui reviennent à Buc, c'est essentiellement pour le côté familial et le côté un peu plus cocooning que dans certains autres clubs.
Ouais. Et il y a Manilamo aussi qui est pas loin.
Et il y a Manilamo
qui est pas loin. Ça, ce sont des clubs aussi qui sont venus au micro de Tribune Foot. Hein, et c'est vrai que ça constitue quand même pas mal. Les rapports sont bons entre vous, voilà, où il y a une petite bourre quand même.
Non, ça a l'air de ça a l'air de fonctionner. Mais moi, je suis à Buc depuis le mois de juin, donc forcément le club nouveau. Est tout jeune pour
c'est
moi.
C'est bien vous regardez. Alors, je suis allé sur votre site internet, ça a changé hein, quand même hein, au niveau du club. Hein. Je crois que la présidente, elle est récente, d'il y a 2 ans à peu près, non ? C'est ça ?
Je crois
juin 2007, crois, oui. Il me semble. Oui. Toute une équipe qui est arrivée. Alors, la vocation fatalement, c'est d'être un club formateur.
Ah bah oui, l'objectif c'est de former les jeunes pour arriver à ce que bah, déjà eux soient épanouis dans le foot et puis qu'ensuite eh bah, on puisse arriver à des constructions d'équipes qui soient quelque chose d'important pour eux quoi.
Donc 230 licenciés, ça veut dire que vous pouvez pas en accueillir plus ou vous avez les moyens pour encore accueillir davantage de personnes et puis on peut venir vous rejoindre après cette émission, on prend sa voiture et on va s'inscrire au foot à Buc.
Non, je pense qu'il y a encore moyen de venir, hein. Je sais qu'il y a possibilité d'arriver et de venir s'inscrire actuellement et venir voir ce qui s'y passe. Et puis de pouvoir soit entamer du foot, soit réentamer du foot.
Vous avez des jeunes qui viennent, qui s'en vont aussi, qui vont vers d'autres sports. C'est aussi le lot fréquent de...
Oui. Et ce qui se passe à Buc, c'est ce sont des jeunes qui ont aussi beaucoup d'autres activités.
Oui.
Pas seulement sportives, mais aussi musicales et artistiques. Donc, en fin de compte, ils sont partagés un petit peu sur l'ensemble.
Alors, je sais que vous êtes un futur papa, donc vous avez préparé aussi cette émission avec votre présidente qui, elle, est partie donc au ski ce week-end. Mais l'ambition pour cette saison du club, c'est quoi ? C'est la remontée dans certaines catégories, c'est...
Les objectifs étaient plus se maintenir dans les divisions et si possible arriver à monter dans la division supérieure pour certaines autres équipes, mais c'est essentiellement un système de maintien pour arriver à pérenniser un petit peu ce qui a été acquis les années auparavant. Donc,
oui, bien sûr.
Voilà. Donc non, c'est essentiellement, après s'il y a autre chose qui vient au bout de la saison, bah, tant mieux, mais c'est essentiellement le maintien dans la division où on évolue actuellement.
Et vous souffrez d'une ville comme Versailles, c'est une grande ville Versailles, on parlait des clubs concurrents, est-ce que quelque part vous en souffrez ?
Ben, je vous disais tout à l'heure, on doit en souffrir parce que c'est vrai que je vois sur la catégorie senior, on a des pertes d'effectifs et c'est essentiellement sur Versailles que c'est...
Ouais, c'est ça, ça va pas dans les autres clubs avoisinants.
Ils vont essentiellement sur Versailles parce que Versailles est un club qui a beaucoup plus d'aura dans les Yvelines. Et donc forcément, tout joueur qui veut jouer à plus haut niveau se dit qu'il tenterait bien sa chance à Versailles pour voir un petit peu plus haut. Quoi.
Et vous pourriez devenir demain un club pépinière, Buc, pour ensuite envoyer, pourquoi pas, des jeunes doués, talentueux vers d'autres clubs franciliens.
Ah bah, ce serait intéressant, oui.
Parce que ça se fait, je crois que ça se fait dans certains clubs de la région.
Oui. Non, ce serait intéressant d'avoir, justement, de pouvoir effectuer une certaine formation au niveau des jeunes et ensuite que ces jeunes-là puissent prendre leur envol à ce moment-là dans des clubs un peu plus huppés, un peu mieux classés.
Alors, si on vous rejoint, quel est le prix d'une licence ou d'une cotisation ?
La cotisation, elle est de 130 euros, avec un jogging.
D'accord.
Ce qui est sympa.
C'est bien sympa. Ils aiment bien les petits jolis comme ça portés. Ouais. Et puis bon, ça identifie quand même à un club, quoi.
Oui, c'est important.
Alors, chez vous, il y a une charte aussi, une charte de respect et de fair play, parce que tous les clubs qui viennent ici à ce micro sont naturellement soucieux hein, des valeurs du sport, des valeurs du foot. Hein. On sait que malheureusement, il y a parfois certains problèmes, mais chacun est soucieux. Vous aussi, à Buc, c'est le même cas ?
Ah oui, c'est un des critères essentiels, c'est-à-dire que l'objectif c'est qu'on puisse avec les jeunes évoluer ensemble et puis dans un système de respect notamment et puis au niveau compétitif aussi. On sait très bien qu'un groupe qui respecte l'ensemble de la compétition et le football en lui-même avancera d'autant plus qu'un groupe qui part dans tous les sens et qui ne respecte pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'il y a une charte, il y a des conditions, il y a une possibilité de... Il y a des chartes à la fois pour l'entraînement, pour le comportement, pour tout ce qui est comportement extérieur ou dans le match. Donc
c'est-à-dire qu'il faut déjà arriver aux heures, aux entraînements. On le répète, on le dit chaque dimanche, mais c'est important, ça commence à... Je vois l'entraîneur là qui...
C'est la priorité. Hein. Mais c'est vrai que c'est difficile. Hein. Je suis en charge du groupe senior et même en senior, ce sont des théoriquement des adultes, mais ouais. Monseigneur, c'est très dur.
Alors, il peut y avoir des cas exceptionnels,
oui, voilà.
Où on
oui,
est pris,
oui.
Mais il y a aussi celui qui se laisse un peu aller, quoi.
Oui, c'est une... je pense que c'est une question de motivation. Hein. Je pense que les mentalités évoluent et que peut-être que les jeunes de maintenant qui font du foot, peut-être pas tous, ouais. mais sont un peu moins motivés, un peu moins. Alors après, je me trompe peut-être.
C'est-à-dire ils consomment comme ils consomment.
C'est une consommation.
Il y a tellement de choses que voilà.
Voilà, c'est une consommation plutôt que se dire je viens à l'entraînement parce que j'ai envie de progresser, parce que j'ai envie d'avancer, parce que ça me mm-hmm. plaît et que j'ai envie de faire des choses.
Et c'est un phénomène que vos collègues entraîneurs de jeunes aussi donc constatent à travers donc les parents aussi peut-être qui parfois ne jouent pas toujours le jeu.
C'est une question qui revient régulièrement entre l'assiduité aux entraînements, la présence active aux entraînements, les retards et le fait d'être là le dimanche. C'est vrai que tout ça crée des discussions en entraîneur et on retrouve les mêmes problèmes régulièrement, que ce soit dans les catégories de jeunes ou en senior ou... Mmh. Ou autre.
Alors, il y a une charte, ça veut dire que si on arrive trop en retard, on range le matériel, les ballons, on enlève les filets, ça se passe comment ?
Je pense
on a des travaux d'intérêt généraux, non ?
Non, je pense que il s'agit d'une discussion entre l'entraîneur et le joueur pour remettre à plat les choses et que le groupe fonctionne tous sur la même, sur la même lancée.
La présidente, elle est omniprésente le plus longtemps possible, enfin le plus souvent possible, dirons-nous.
Oui, j'aimerais pas être à sa place parce qu'elle est régulièrement sur tous les terrains.
Oui, quand je suis au téléphone, elle m'a dit, vous savez, je suis à la fois présidente, secrétaire, trésorière, c'est un peu ça, quoi.
Oui, voilà. Elle est régulièrement aux entraînements, elle est régulièrement sur les terrains de foot et je pense que les semaines sont rythmées par le foot et le club de Buc.
Donc on va comprendre qu'elle apprécie son Wikikanowski.
J'espère qu'elle en profite.
Et avec vous, elle vous délègue quand même largement sur le choix des joueurs, des équipes, ou alors à l'interfère aussi, il y a souvent des discussions techniques, ça arrive aussi ?
Non, c'est-à-dire que je suis arrivé en juin, elle m'a confié la responsabilité des seniors, et elle interfère en aucune façon dans ma manière de gérer, que ce soit les entraînements ou que
Elle laisse vraiment champ libre. Quoi. Elle est présente, mais
Elle est présente sur le côté administratif, sur le côté relationnel. Mmh. Après, sur le côté football et construction de l'équipe ou construction de ce qu'il y a à faire pour l'avenir, je n'ai pas tellement de pression par rapport à cette chose.
Alors justement, on vous a vous êtes venu à Buc. Comment c'est fait ? C'est arrivé ? C'est vous qui êtes venu ? Vous êtes dit tiens, j'ai envie de continuer dans le foot ?
C'est-à-dire que j'ai entraîné il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'ai entraîné le club d'Elancourt, en senior toujours, et puis j'avais arrêté pendant 2-3 ans pour m'occuper de ma fille, qui a 9 ans, elle, et donc et maintenant qu'elle est un peu plus grande, j'avais envie de reprendre des fonctions justement au niveau football, et puis Buc s'est présenté comme un club intéressant, avec un projet... Une ambiance familiale qui me correspondait.
Ah ouais. Donc, ouais, parce qu'on l'a dit, y a une équipe nouvelle qui est revenue en 2007. Hein. Mm-hmm. On a changé l'équipe passée, donc on a essayé en tout cas de repartir sur de bonnes bases.
Hein. Oui.
Alors, tout de suite, entraîneur, c'est une vocation ? Parce que vous auriez pu jouer.
Je sais pas si c'est une vocation. J'ai commencé entraîneur-joueur. J'ai vu que c'était bien difficile.
Oui,
et
dur,
très
ça.
Difficile. Et donc, je me suis retranché sur entraîneur. Et c'est pas un retranchement négatif. C'est au contraire très, très positif. Et puis, ça me donne envie d'aller plus loin et de faire plus de choses encore.
D'accord. Alors, entre nous, quel type d'entraîneur êtes-vous ? Vous êtes quelqu'un de très exigeant. Il y a des coups de gueule parfois ?
Il y a des coups de gueule parfois, mais je pense que je suis peut-être pas suffisamment de temps en temps autoritaire. C'est pas ma façon de fonctionner. Je suis pas autoritaire, je préfère passer par le dialogue. Alors ça
c'est important, c'est le dialogue.
Ça crée des problèmes avec certains joueurs par moment, mais bon, c'est plutôt ma façon de fonctionner, plus sur le dialogue et la discussion plutôt que sur le mode autoritaire où là c'est toujours conflictuel.
Oui, puis on a toujours dit qu'un entraîneur était aussi un psychologue, c'est important aussi ça. Hein.
Oui, non, c'est extrêmement important de pouvoir comprendre ce que les joueurs ont envie de faire et de pouvoir s'adapter à ce qu'ils ont envie de faire et puis les amener un peu plus haut pour leur dire, vous pouvez accéder à ça. Et c'est vrai que si on ne discute pas, il y a...
Ouais. Et des fois, on perçoit certaines difficultés dans le groupe. On se dit, tiens, les gars-là sont pas très bien, ou il y a des petits conflits. On arrive aussi à percevoir ça.
Ah oui, toutes les semaines. À un moment donné, c'est vrai que toutes les semaines, on a des petites choses. Alors, on croit avoir réglé certaines choses, et puis tout d'un coup, elles réapparaissent. Ou alors, on croit avoir réglé quelque chose, et puis derrière, il y a un autre problème qui survient. Ouais. Donc, c'est vrai que toutes les semaines, c'est remis en cause. C'est du travail.
Du feeling. Et puis, aussi le feeling de savoir que, finalement, il faut peut-être avoir une dose d'entraînement un peu plus dure cette semaine, et puis une un peu moins dure la semaine d'après aussi.
Oui. On jauge le groupe sur le match du dimanche, et puis on a bien entendu une programmation sur l'année, mais c'est vrai que cette programmation, elle est obligée de s'adapter semaine par semaine, parce que chaque dimanche est différent, et puis chaque dimanche remet en cause l'autre dimanche d'après.
C'est sûr,
c'est vrai que c'est intéressant.
Et pour l'instant, le groupe senior donc à mi-saison, il y a des regrets, il y a des points positifs, il y a beaucoup d'espoir pour 2009.
Mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour 2009. Ce sont des joueurs qui m'apparaissent très intelligents. Après, c'est dans la motivation qu'il faut qu'on arrive à travailler, et puis dans la structure du jeu. Ils ont progressé, il y a de l'avancée. Mais comme je vous disais, c'est une remise en question chaque dimanche. C'est-à-dire, on va faire un bon dimanche où là, on a l'impression que ça y est, c'est parti. Et puis le dimanche d'après, où les motivations sont peut-être un peu moindres, où le groupe n'est plus tout à fait le même, et derrière, on est obligé de retravailler sur autre chose.
Et au niveau des postes, tout va bien? Il n'y a pas un secteur difficile?
Les jeunes d'aujourd'hui, je dis jeunes parce que j'ai un groupe très jeune, moi, en senior. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont une moyenne d'âge de 23 ans, je pense.
Ils ont été formés au club ou ils viennent...
Beaucoup ont été formés au club, et il y en a qui sont...
Vraiment club formateur, quoi.
Ouais. Et donc, par contre, il y en a qui viennent de l'extérieur, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attaquants. Beaucoup de milieu.
Donc, il y a un gros problème en défense, c'est ça.
Il n'y a pas de gros problème parce que il y a un bon groupe en défense, mais seulement ils sont pas suffisants pour arriver à avoir une concurrence suffisamment importante. Il y a des joueurs qui reviennent de blessures et donc forcément qui là vont pouvoir apporter un plus au fur et à mesure. Mais c'est vrai que depuis le début de saison, on est avec un gros quota d'attaquants au milieu et un petit quota de défenseurs.
Ah d'accord. Voilà. Donc vous voyez, on reproche souvent à des entraîneurs d'être assez frileux, de dire on joue la défense, à but c'est différent. C'est surtout l'offensive.
On est obligé de construire sur l'offensive parce que c'est vrai que sinon on peut pas s'en sortir. Donc c'est vrai qu'on a tendance plutôt à construire un schéma offensif qui permet de défendre, mais c'est vrai que.
Et vous êtes partisan de quoi, finalement? Vaut mieux jouer l'offensive ou la défense? Avoir d'abord une bonne défense et ensuite on essaie de pas perdre des matchs ou plutôt de les gagner?
On essaye de les gagner.
Ouais.
Mais c'est vrai que en tant qu'entraîneur, on a toujours ce dilemme en se disant je veux bien jouer l'offensive, mais si on prend un but dans les premières minutes ou dans les premières 20 minutes, c'est vrai qu'après ça devient un petit peu difficile, surtout à notre niveau, c'est très dur. Donc on est toujours partagé entre est-ce qu'on les laisse se lâcher ou alors est-ce qu'on les restreint pour arriver à...
Et ça c'est en fonction des matchs, en fonction des adversaires, mais les adversaires, eux, sont plutôt tendance à fermer le jeu, non?
Beaucoup de belles défenses, oui.
Ouais, c'est ça. Un seul attaquant, quoi, c'est tout.
Un seul ou deux attaquants, mais bon, c'est vrai que les entraîneurs préconisent essentiellement, oui, un bon retour et un bon replacement plutôt que de laisser de l'espace au...
La notion de plaisir aussi, c'est important.
C'est essentiel.
Un entraîneur, c'est ce qu'il doit inculquer à ce joueur. Se faire plaisir sur le terrain avant tout, parce que avec le plaisir, on arrive à faire n'importe quoi.
C'est l'essentiel.
On arrive à se transcender, quoi.
C'est ce qu'il y a de plus important. À partir du moment où les joueurs se plaisent sur le terrain, ils reviennent d'autant plus aux entraînements pour progresser, et donc derrière, ils prennent d'autant plus de plaisir parce qu'ils voient qu'ils progressent, et derrière, c'est ça qui fait avancer le groupe.
Donc vous leur parlez beaucoup, y compris avant le match, ou alors vous les laissez tranquilles?
Oui, ils me reprochent des fois de trop parler avant le match. Oui, parce que il faut poser les choses, et puis comme c'était un groupe que je ne connaissais pas, j'étais forcément obligé à un moment donné de leur dire ce que moi je pensais du foot, et puis après, même si ça correspondait pas toujours à leur... à leur pensée. Moi, il fallait que j'impose ma manière de voir les choses.
Très bien, allez, on passe la page de pub, hein, on marque un petit break, et puis bah, on quittera après les vestiaires pour revenir sur le terrain donc, de foot, et notamment du côté de Buc.
Météo. Alors la météo pour ce dimanche matin, eh bien nous aurons comme hier samedi des brumes et des nuages entrecoupés d'éclaircies. Les températures sont très froides ce matin, moins 2 degrés, et ça va atteindre péniblement les 0 degrés cet après-midi. C'est à partir de lundi que le temps devrait se dégrader légèrement, avec des nuages et des averses de neige qui sont prévues selon les endroits.
Retrouvez la prévision météo
sur le serveur de Météo France au 3250.
Éphéméride sur RVE.
Éphéméride.
Les éphémérides vous sont présentés par le San Lazzaro, restaurant italien à Rambouillet.
Bonjour, nous sommes le 1er février, nous fêtons les Ella ainsi que les Viridiana. La citation du jour, il y a un siècle pour les blondes, un autre pour les brunes. La mode elle-même et les pays règlent souvent ce qu'on appelle la beauté. Blaise Pascal. Ça s'est passé un 1er février. En 1887, un investisseur immobilier enregistre son ranch sous le nom de Hollywood. En 1903, Hollywood obtiendra le statut de ville et sera annexé à Los Angeles en 1910. Les premiers cinéastes ont adopté la région à cause de son climat et surtout parce qu'ils pouvaient travailler loin des puissants cartels de la côte Est qui exerçaient un contrôle total sur les brevets permettant l'usage des premiers appareils et instruments de cinéma. En 1949, la RCA Victor dévoile le premier lecteur de 45 tours. En 1970, une des pires catastrophes ferroviaires des 50 dernières années fait quelques 235 victimes en Argentine alors que deux trains sont entrés en collision à une trentaine de kilomètres de Buenos Aires. En 1986, Diana Ross épouse en Suisse le millionnaire norvégien Am Næss, un armateur passionné d'alpinisme. En 1997, fin de l'utilisation du Morse. Et en 2003, pratiquement 17 ans après l'explosion de Challenger, la NASA perd une seconde navette spatiale lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Columbia se désintègre, tuant ses 7 occupants, dont le premier astronaute israélien. Les résultats préliminaires de l'enquête indiquent qu'une brèche s'est formée dans le bouclier thermique au niveau de l'aile gauche, entraînant la fonte des structures en aluminium. On passe aux anniversaires, si c'est le vôtre, très bon anniversaire. 1859, naissance de Victor Herbert, compositeur. En 1922, naissance de Renata Tebaldi, cantatrice. En 1947, naissance de Mike Brandt, chanteur. En 1952, naissance de Jean Roucas à Marseille, c'est un humoriste. Et en 1966, naissance de Laurent Garnier à Boulogne-sur-Seine, c'est un disque jockey français. 1939, naissance de Claude François, chanteur, notamment comme d'habitude et de plein d'autres succès que vous connaissez évidemment. Je vous souhaite une excellente journée.
Bonne fête à tous avec le San Lazzaro.
Suivre une formation diplômante tout en étant rémunéré, c'est possible. Vous souhaitez préparer un bac pro commerce, un BTS administratif ou commercial en alternance? Escale Formation a décidé cette année d'organiser une rentrée pour le mois de février. 20 places sont encore disponibles et 40 postes restent à pourvoir en entreprise. Alors, dépêchez-vous. Pour vous inscrire, contactez-nous au 01 34 57 10 70 ou rendez-vous sur notre site web www.escaleformation.com.
Escale Formation, maintenant pour demain. Zone du Bel Air, 5 rue Barthélémy Timonier à Rambouillet. Renseignements 01 34 57 10 70.
Le San Lazzaro, le prestige de la gastronomie italienne. Ses variétés de salades, de veau, de pâtes à l'italienne, ses grillades et ses menus de viande et de poisson selon arrivage. Sans oublier ses pizzas au feu de bois et pour les plus gourmands, ses desserts maison et son assortiment de glaces. Le San Lazzaro pour un instant de plaisir et de convivialité. Le San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet, 01 30 41 05 77.
Allez, on va donc on revient sur les terrains de foot avec Buc hein, et on va continuer avec cette section. Alors au niveau des créneaux d'entraînement, c'est tous les jours, tous les soirs, tout est pris.
Quasiment oui, tout ouais. Est pris. Le terrain il est il est quasi en overdose à ce niveau-là parce qu'on n'a qu'un terrain stabilisé.
Un seul terrain.
Oui, un terrain stabilisé. Il y a un petit morceau de pelouse avec quelques buts sur le côté, mais sinon c'est essentiellement le terrain stabilisé qui est utilisé toute la semaine par l'ensemble des catégories.
Alors ça doit poser problème quand on a connu la météo qu'il y a eu il y a quelques semaines. Je suppose qu'il y a dû y avoir des matchs de reportés.
On a eu pas mal de matchs reportés. Alors c'est vrai que moi j'ai eu le plaisir de voir qu'on pouvait utiliser un gymnase l'hiver. Donc c'est vrai que c'est super important de pouvoir maintenir une ou deux séances à l'intérieur. Et puis il y a dans les projets actuellement de construire un synthétique.
Ah oui, c'est l'avenir dans le foot.
On espère que ça arrivera rapidement. Et puis donc voilà, donc c'est vrai que ça nous aiderait pas mal à ce niveau-là, puisque ça permettrait d'utiliser encore davantage le terrain et de pouvoir justement ne pas avoir des journées ou des semaines.
Oui, parce que avec donc les fêtes de fin d'année, le froid. Et puis le dégel, il y en a qui ont pratiquement qui sont restés un mois sans jouer au foot.
Quasiment 4 semaines.
Ouais, 4 semaines. Hein, donc pour un entraîneur, effectivement, ça pose problème. Il y a les conditions et tout. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut jouer des matchs en semaine au beau jour. On peut jouer un jeudi de l'Ascension ou
je pense,
ou un 8 mai ou un 1er mai, quoi.
Mais il y a quand même suffisamment de dates.
Des dimanches qui sont prévus.
Il y a quand même suffisamment de dates pour l'instant.
Ah ouais.
En espérant que le temps revienne vers le printemps tranquillement.
Il ne faut pas se février, puis après ça ira bien.
Oui,
quoi.
Voilà.
Alors, le public, il est fidèle, ou alors c'est un public de curieux qui vient comme ça, les parents des joueurs.
Les parents sur les catégories de jeunes sont apparemment très très fidèles, donc ils viennent régulièrement, ils sont là. Après, en senior, il y a quasiment pas de public. Hein. C'est des gens qui passent, qui sont de passage. Ou alors c'est des anciens joueurs qui viennent jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui se passe, mais il n'y a pas tellement non plus de public fidèle à ce niveau-là. Par contre, je crois qu'en catégorie de jeunes, oui, il y a beaucoup plus de monde qui sont plus motivés. Et,
parce que ça aussi, hein, c'est ça aussi le foot amateur, hein, c'est ce public qui vient comme ça le dimanche après-midi, passer, refaire l'histoire, voir les matchs, boire un coup. Hein.
Ah oui, non, voilà, c'est... c'est intéressant.
Alors, vous parliez aussi de du côté fédéral de votre club, hein, cette côté ambiance. Il y a beaucoup de soirées hors foot. Vous voyez souvent pour fédérer justement un groupe, une collectivité.
Alors, il y a pas mal de choses qui sont organisées au niveau des jeunes, avec des repas, au moment des fêtes, au moment des galettes des rois et tout ça. Et puis, on essaye de mettre en place des choses aussi au niveau des plus grands pour arriver à ce que...
Une soirée du club, par exemple, une soirée du club, ou alors, je sais pas, ça peut être du loto, ça peut être... parce que on en parle toujours, mais c'est important dans la vie d'un club, d'un groupe, d'être solidaire, d'être soudé, et comme on le dit très souvent, les matchs se gagnent parfois même grâce à cela, quoi.
Oui,
en dehors des terrains.
Là, je sais qu'il y a une soirée loto qui va se dérouler au mois d'avril. Pour financer justement un déplacement sur l'île de Ré, un tournoi où certains jeunes vont se déplacer.
On joue à l'utile, à l'agréable.
Voilà, donc ils vont aller se balader là-bas et puis à l'occasion jouer au foot. Non, c'est surtout jouer au foot et à l'occasion se balader. Et puis il y a des goûters de Noël qui sont organisés aussi pour pouvoir... et puis des goûters aussi en fin d'année au mois de juin.
Ouais, donc ça c'est les tournois qui sont prévus pour les jeunes. Des tournois cycles, un jour c'est pas vu, non, sur but, non?
Eh bien, il y a des grands déplacements pour les Poussins et les Benjamins à l'île de Ré. Donc, il y a deux tournois du club débutant Poussins le 14 juin et Benjamin Benjamin et 13 ans le 21 juin. Et ensuite, tous les éducateurs, eux, voient en fonction de ce qu'il leur est proposé par les autres clubs pour participer à d'autres tournois.
Voilà. Et puis il y a aussi les transports qui sont par vos propres moyens. Vous faites partie de tous ces clubs qui emmènent les joueurs dans ses propres voitures. Ça aussi c'est important, il faut le dire, il faut le rappeler que on prend sur ses responsabilités, quoi.
Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est...
Vous avez des problèmes de bénévoles aussi sur récurrents, sur Bug, parce que c'est aussi un phénomène où tous les clubs se plaignent de manquer un peu de bénévolat. Est-ce que ce phénomène se fait aussi sentir du côté de Bug, ou alors au contraire, vous avez finalement l'encadrement suffisant par rapport aux licenciés?
La présidente me disait que sur les jeunes, les parents sont quand même bien présents pour l'accompagnement en match.
Donc
ça compense. Sur les seniors, la catégorie des plus grands, et là on manque de dirigeants essentiellement, et on manque de personnes qui viennent le dimanche qui viennent alors il y en a, mais c'est vrai que c'est un roulement, hein, ce sont quasiment toujours les mêmes, donc je pense que des fois ils sont peut-être un peu épuisés, ils saturent un petit peu, donc je les remercie d'ailleurs, mais c'est vrai qu'en senior on a tendance à manquer de dirigeants.
Un petit mot sur l'arbitrage, est-ce que vous avez des jeunes qui sont aussi intéressés par l'arbitrage, parce que je athlètes maintenant, c'est presque une obligation dans les clubs.
Mais il y en a quelques-uns, oui. Oui, il y en a quelques-uns qui en font et qui, de manière, on est obligé, et puis c'est même très important, je pense, pour un club de pouvoir amener certains jeunes à voir le foot autrement que par le jeu et le voir dans l'arbitrage. Et c'est vrai qu'à Buc, certains sont dans cette formation-là et ils participent.
Alors, on parlait justement de la charte du fair play. Comment vous êtes sur le banc de touche? Vous êtes quelqu'un qui contestait beaucoup les décisions. S'il y a une énorme erreur d'arbitrage, parce que ça arrive même souvent, quelle est votre réaction?
Je suis
On se tait, il faut montrer l'exemple.
Je suis partisan.
Tempérament le prendre dessus, quoi.
Non, je suis partisan de me taire.
Ouais.
Parce que beaucoup trop d'événements dans la banlieue.
Ouais, c'est pour ça.
Dans la banlieue des Yvelines, je sais que vu le nombre d'années que j'ai fait sur les bancs de touche, les principaux problèmes ils proviennent du banc.
Ouais,
et tout le temps que le banc n'est pas.
C'est-à-dire que c'est le banc qui fait monter la pression vis-à-vis du public.
Ah bah c'est obligatoirement le banc qui fait monter la pression, qui met la pression sur l'arbitre, qui met la pression sur les joueurs, qui stresse les joueurs, qui commence à créer des conflits. Et si nous, on n'est pas impartial et qu'on gère uniquement le jeu, et qu'on... Après, c'est là où les événements un peu idiots du foot réapparaissent.
Il y a eu des efforts de fait dans le district, parce que je sais que ça a été un leitmotiv important pour justement canaliser toute cette violence. On sent qu'aujourd'hui, quand même, il y a une énorme sensibilisation et mobilisation de l'ensemble des clubs.
Non, il y a des efforts de fait à ce niveau-là. C'est sûr, quand on voit il y a un classement justement au niveau de la valorisation de l'esprit sportif. Je trouve que c'est important, parce que c'est vrai que ça met en place des choses qui font que les équipes qui sont très sanctionnées au niveau carton jaune, carton rouge, perdent un petit peu de points sur classement. Après, est-ce que le barème est conséquent ou pas? Peut-être qu'il pourrait être plus dur, j'en sais rien du tout à ce niveau-là, j'ai pas encore vu.
Et allez, entre nous, là, ça arrive qu'il y a des adversaires qui jouent pas le jeu et on tombe sur des équipes un peu hostiles.
Oui.
Oui, ça arrive.
Oui, ça arrive. Et en général, c'est pas avec les joueurs.
C'est les entraîneurs qui donnent des consignes.
C'est avec les entraîneurs c'est vrai que des fois, ça passe pas du tout, parce que les consignes données par l'entraîneur adverse sont complètement antisportives et complètement
hors propos. La gagne avant tout, quoi.
Et donc derrière, c'est dommage.
Ouais. Et le public, au style, vous êtes tombé sur des publics très difficiles, même encore dans notre département?
Ici, en déplacement, non.
Ouais, non. Ici, en général, je vous dis, il y a une grosse mobilisation, une grosse sensibilisation sur le district des Yvelines. Hein.
Non, ici, on n'a pas eu de... On a des supporters de foot normaux, ça reste honnête, ça reste... Voilà, mais non, on n'a pas trop eu de déplacement de
Il y a peut-être eu des départements d'Île-de-France France pour des matchs de coupe où c'était plus dur, ça.
Ah bah il y a des matchs où on est un peu plus touché, mais bon c'est pas réglé. C'est vrai qu'ici dans les Yvelines, je trouve qu'il y a des efforts qui sont faits, mais les clubs qui sont dans notre championnat ne sont pas aussi peut-être pas représentatifs de ce qui se passe dans un match dans les Yvelines en gros.
Et l'arbitrage, donc on l'a dit, hein, des jeunes sont obligés d'être intéressés à l'arbitrage, mais c'est vrai que c'est pas une situation facile quand même. Il faut reconnaître que
c'est très complexe. Hein. C'est qui n'a pas essayé d'arbitrer, dit oulala, dans quelle histoire je m'embarque. Et donc c'est vrai que l'arbitrage, c'est une chose, on peut pas s'en passer. C'est sûr. Et puis il faut à tout prix qu'on puisse évoluer sur ce point de vue-là, pour que le jeu et que le foot reste ce qu'il est, quoi.
Alors justement, on allait parler de la vidéo, mais dans le secteur amateur, c'est impossible la vidéo.
Non, c'est
impossible. On parle de la vidéo pour le football professionnel, mais il y aurait un énorme décalage avec le monde amateur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? 3-4 arbitres?
Je sais pas, peut-être que redoubler les arbitres, ça va pas empêcher les erreurs commises sur le terrain. Je pense qu'il s'agit d'éduquer avant tout les jeunes à accepter les erreurs qui peuvent être faites.
Ouais. Il faut que ce soit une culture.
Voilà, une culture. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça se déroule pas trop mal, quoi, parce qu'il y a des, il y a des sports où il n'y a même pas d'arbitrage,
mm-hmm. et ça se passe... Il y a presque une sorte d'auto-arbitrage.
Ouais, ouais. Et ça se passe relativement bien. Après, c'est une éducation.
Ouais.
Et je pense que le footballeur de base n'est peut-être pas tout à fait toujours éduqué de la bonne manière.
Alors, c'est vrai que ça doit être dur pour l'éducateur que vous êtes, quand on voit les matchs à la télé, où on voit même parfois des présidents de club, des entraîneurs qui contestent. Parlons pas des joueurs, ça doit être difficile de canaliser tout ça après en tant qu'éducateur sur le terrain.
Bah surtout avec l'image, ouais, l'image, oui. L'image du sport et du foot actuellement. Hein, le foot, il est régulièrement sur les antennes, sur toutes les antennes. Les gamins, ils ne voient que ça. Et donc forcément, les mauvais gestes et les mauvaises réflexions, elles sont répétées, copiées, puisque ce sont...
Déformées, amplifiées.
Déformées, ouais, amplifiées, ouais, ouais, ce sont des stars, donc on copie les stars. Et donc,
ouais. Ça doit énormément poser de problèmes, c'est sûr. Alors tiens, justement, ça va nous permettre de donner les résultats. On est content de retrouver Pierre. Ça va la voiture, Pierre ?
Merci de m'accueillir.
Voilà.
Ravi de vous retrouver.
Non, il y a un micro qui ne marche pas. Voilà, cette fois-ci le micro va marcher.
Bonjour à tous.
Ouais.
Ravi de vous retrouver.
Ouais, ouais. Alors, ça va mieux la voiture ?
Ça va mieux, ouais. Difficile, mais ça va mieux.
Bon, ok, il a évité le carton jaune. C'est très bien. Allez, la Coupe de France. Alors Pierre, allez, en tout état de cause, Marseille-Lyon, match très moyen.
Comme le match en championnat à peu près.
Ouais, ouais, ouais.
Sauf que Karim Benzema a fait la différence. Et puis Ronald Zubar sur une énième faute a donné la balle. Mais ça a permis aussi ce match de voir les nouvelles recrues de Marseille, Brendao et Wiltord, qui n'ont pas été très convaincantes.
Alors, Lyon, bon, assuré l'essentiel, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On les a sentis quand même plus conquérants. Et c'est ce qui a fait la différence.
Lyon avec un Karim Benzema, avec un César Delgado. Ouais, aussi qui devient très bon, ont été très conquérants, enfin un pressing très haut, et ça a mis Marseille tout de suite dans l'embarras, et ça a payé.
Et même en deuxième mi-temps, quand les Lyonnais volontairement ont laissé venir les Marseillais, c'est eux qui en contre auraient pu encore tuer le match.
Les Marseillais ont pas su trouver la solution, ouais. Alors qu'ils avaient le ballon, et puis les Lyonnais en contre ont failli, avec notamment encore Benzema,
ouais,
qui a touché le poteau.
Il y a eu deux tirs sur la barre,
Non, mais même à la fin quand même.
Finalement, la seule occasion marseillaise.
Voilà, c'est 92e minute. Voilà. Ça aurait été moche quand même pour Lyon.
Ouais, ouais. Mais enfin, c'est vrai que Marseille, qui avait battu par deux fois Lyon ces dernières années en Coupe de France, cette fois-ci, la logique a été respectée sur le match, tout du moins, et Lyon donc a battu l'OM.
Voilà, c'est ça. Et maintenant, on va voir Lyon qui va se déplacer à Lille, et ça va être un beau match aussi.
Oui, alors ça sera un match qui se déroulera, et trois jours après, les deux équipes se retrouveront en championnat.
C'est le hasard du calendrier.
Au Stade de France.
C'est le hasard du calendrier.
Alors on va rappeler les principaux donc résultats. D'abord pour les équipes de Ligue 1.
L'autre match entre les clubs de Ligue 1, c'est Rennes qui reçoit l'Orient. Puis le Paris Saint-Germain qui accueille Rodez accueille Paris Saint-Germain, pardon. Ouais. Puis le petit poussé Vitré, club de CFA, se déplace à Sedan. Ça va être un match peut-être décisif pour eux.
Oui, alors on va rappeler quand même que Rennes a battu Saint-Étienne, c'était un des matchs phares de la Ligue 1.
Oui, c'était le tour juste avant. Saint-Étienne qui s'était imposé à Bordeaux le tour avant. Ils n'ont pas su réitérer l'exploit d'aller s'imposer à l'extérieur face à une bonne équipe de Rennes qui enchaîne les résultats.
Oui, Monaco qui a battu Nice, ça c'est un peu surprenant. En championnat, ça a été différent.
Ça faisait très longtemps que Monaco n'avait pas su s'imposer face à Nice. Et puis ça a été fait grâce à la révélation de Monaco cette année, Licata, qui marque un but. Mais c'était pas un match très très prenant.
Ouais, ouais. Et puis la hiérarchie n'a pas été trop bousculée, sauf peut-être quand même Boulogne.
Boulogne-sur-Mer, hein, ouais. Qui avec un Grégory Thil qui marque un superbe but, quand chez eux, je crois, c'est ça.
Ouais.
Oui.
3-1.
Ils peuvent aller loin, je pense, dans cette
compétition. Ils vont jouer Toulouse et ça sera un match peut-être plus ouvert qu'on ne le pense. Hein,
bien
à
sûr.
Boulogne en plus.
Bien sûr. Ils sont en forme, les Boulogne-sur-Mer, en ce moment.
Très bien, donc ça c'était pour ce tour de Coupe de France, hein, les huitièmes de finale donc qui seront joués les 3 et 4 mars prochain. La Coupe, ça vous intéresse ?
Ah oui, oui.
Ça reste encore mythique ?
Ah ça reste mythique.
Ouais.
Parce que,
bon, là maintenant la hiérarchie a été rétablie. Ouais. Vitré qui est en CFA et le petit Cendrillon. Donc déjà, il n'y aura plus des exploits à la Carquefou ou à la Calais. Hein.
Mm-hmm. Non, c'est vrai que là, ça s'est un peu aménuisé au niveau des surprises. Mais bon, non, c'est vrai que ça reste toujours magique. C'est...
Ouais. Vous avez eu le temps de voir le match, hein, malgré votre emploi du temps.
Malheureusement, non. J'ai vu un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Mais j'ai pas eu le temps de voir le match.
Très bien. Alors les résultats de cette 20e 22e journée. J'ai dit, il y a un fou week-end de sport.
Oui.
Et parmi ce fou week-end de sport, il y a le derby du Rhône-Alpes.
Voilà, c'est ça. Alors, on commence ces résultats par la belle victoire du PSG 2-0 hier face à Caen sur leur terrain.
Belle victoire aussi. Je l'ai trouvé, elle va être contente.
on lui passe le bonjour. Ouais. Belle victoire aussi de Monaco sur Grenoble 1-0. Tout comme Valenciennes sur Nice. C'est important,
important
en vue du classement.
1-0.
Nantes aussi. Fait une belle opération en s'imposant 2-0 sur le terrain du Mans, donc il s'écarte de la zone rouge. Tout comme Nancy aussi qui bat le Havre chez eux, 3-2.
Je crois que
ça va être dur pour le Havre, ça va être très dur. Et puis Auxerre et Lorient se sont quittés sur un piètre match nul, tout comme la belle affiche Rennes au Toulouse. Mmh. En attendant les trois matchs de ce soir, à savoir Bordeaux, Lille, Sochaux-Marseille et le derby donc Lyon-Saint-Etienne, au classement, ça donne les six premières équipes du classement se tiennent en 4 points, ce qui est assez improbable. Et dans la zone rouge, on retrouve toujours les trois mêmes équipes, Valenciennes, Sochaux et Le Havre, même si Sochaux, s'il emporte contre Marseille, peuvent passer devant Auxerre ce soir.
Alors Pierre, mine de rien, ce championnat, il est très ouvert. On l'a vu, Rennes-Toulouse 0-0 hier, mais il y a deux matchs importants. Aujourd'hui, c'est aussi Bordeaux-Lille.
Bordeaux-Lille, c'est un très très gros match. Parce que Lille, faut pas les négliger quand même. Ils ont un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, avec Michel Bastos qui est en pleine bourre. Non, je pense qu'on va avoir un très très beau match. Les trois matchs, de toute façon, de dimanche, ce dimanche, vont être très beaux.
Lyon-Saint-Etienne, bon,
c'est toujours.
C'est le classico du Rhône-Alpes.
Moi, je pense, à mon humble avis, que ça a dépassé Paris-Marseille. C'est presque maintenant parce que c'est un peu plus tendu, les rivales c'est plus proche, voilà. Puis Saint-Etienne ces dernières années s'était relancé. On va voir aussi Alain Perrin qui revient à Lyon.
Oui, en plus, ouais.
Ça va être chaud peut-être pour lui. Donc non, on va avoir trois beaux matchs ce soir.
Ce championnat, vous le suivez naturellement comme nous tous, hein.
Oui, je le suis. Oui.
Tous ceux qui sont dans le foot suivent le foot. Ça revient à longueur de journée, les conversations. D'abord, vous avez une équipe fétiche?
J'aimerais bien aller voir des beaux matchs au PSG, au Parc.
Ouais.
Alors c'est vrai que ça commence à revenir dans ces deux dernières années, ça commence à être un peu plus.
Il n'y a jamais eu autant de monde au Parc depuis cette année, depuis très longtemps. Hein. Et puis c'est vrai que là, c'est un signe. Paris qui bat Caen 2-0, ça prouve que ce sont des matchs qu'elle n'aurait peut-être pas forcément gagné l'année dernière.
Oui, il y a quelque chose qui s'installe, qui s'instaure. Donc c'est bien. Donc c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir aller au Parc et puis aller voir un beau match de foot. Ce qui est vrai que dans les dernières années, c'était un petit peu petit peu difficile de se déplacer le samedi soir et d'aller voir.
Et sinon, les matchs que vous suivez à la télé, sur Canal ou sur Orange, les matchs de championnat, vous en pensez quoi? C'est un championnat moyen au niveau du jeu. C'est vrai que quand on voit le match de Coupe de France, ça n'a pas été un grand match. Quand on voit les matchs de Coupe de la Ligue précédemment, ça n'a pas été non plus un grand match. Et c'est peut-être le match de Coupe de France, Bordeaux-Saint-Etienne, qui était plutôt un bon match.
C'est un beau match aussi.
Mais c'est vrai que pour l'instant, on reste un peu sur notre fin quand même.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de grands matchs. Par contre, c'est vrai qu'au niveau organisation, la France reste quand même, du moins à mon avis, hein, ça reste quand même un des pays où l'organisation fait que c'est un peu moins du hurrah football qu'en Angleterre, où c'est un peu plus délié, où c'est un peu plus délié. Et par contre, on a encore un décalage avec l'Italie ou l'Espagne, où là, il y a vraiment des très beaux matchs quasiment tous les week-ends.
Mais c'est quoi? Ce sont des options trop frileuses de la part des entraîneurs? C'est quoi?
Je saurais pas vous dire, je suis pas à leur place.
Non,
mais c'est
vous êtes
vrai
éducateur,
que... Oui. Je pense que c'est dans la volonté, c'est-à-dire que en France, j'ai l'impression qu'il y a on n'a pas cette hargne de gagner. L'objectif, c'est peut-être de pas perdre, et c'est pas de gagner au départ. Alors que quand on va en Angleterre, on sait très bien que les Anglais ils rentrent sur le terrain, c'est pour gagner. Les Italiens, ils rentrent également pour gagner. Ils savent qu'ils vont bien défendre, mais que derrière, il va falloir tout mettre pour aller marquer un but. Donc c'est vrai que je pense qu'on a peut-être une mentalité un petit peu trop, sur la réserve que sur les autres pays européens, où là, ça, même en Allemagne, ça va dans tous les sens.
C'est un beau championnat,
Avec le petit poussé Hoffenheim là, qui risque d'être en Ligue des Champions.
Tiens, on va rappeler, Schirein, c'est terminé.
Schirein, c'est terminé pour le petit poussé.
Enfin bon, il a quand même
bel exploit d'arriver jusque-là.
Alors, championnat très ouvert, très passionnant. Ça, c'est bien.
Ah oui, c'est très
bien. Parce que là aussi, pendant des années, il n'y avait qu'une seule équipe. On s'est dit, Et puis là, on a un championnat, tout est ouvert de toute façon.
Oui, oui, tout est ouvert. Et puis c'est vrai qu'on constate qu'il y a des équipes qui sont entre guillemets sans grosses stars et qui produisent du jeu, qui produisent quelque chose qui est intéressant. Et donc derrière, ils arrivent à rivaliser avec des grosses écuries comme Lyon, comme Marseille, qui ont des stars dans leurs effectifs, mais qui marchent un peu moins bien ces années-là.
Mais attention à Lyon quand même, parce que dans les grands matchs, ils savent encore être présents. Ils ont encore ce petit brin de régularité que n'ont pas les Marseillais, que n'ont peut-être pas toujours les
Lyon, de toute façon, on sait très bien qu'au mois de janvier, ils sont toujours poussifs. Ils préparent le mois de février et mars avec une préparation foncière énorme. Et donc, ils vont être prêts pour la Ligue des Champions, je l'espère en tout cas.
Bah, il faut, parce que justement, ça va servir de transition là, avec Mickaël pour les Coupes d'Europe. Justement, est-ce que c'est pas ce qui manque au club français, cette fameuse culture de la gagne ? Effectivement, vous en parliez au niveau européen. Alors bon, c'est vrai que Lyon-Barcelone, c'est Barcelone, avec toute cette somme d'individualité. Mais par exemple, en UEFA, où la compétition est quand même moins relevée, on s'aperçoit que très souvent, on s'arrête au stade des 16e et des 8e. Et ça, c'est pas normal.
Si, je pense que oui, voilà, c'est peut-être cette culture-là. Alors, il y a un moment donné, avec les victoires qu'on a connues avec l'équipe de France, on a pensé que ça allait être, je pense, un peu mieux et que ça allait prendre une nouvelle tournure. Mais c'est vrai qu'on constate que non, on a beau avoir des très très bons et des excellents joueurs en France, alors soit ils vont vers l'étranger, ou même quand on les garde en France, au niveau compétitif, on est moins fort qu'une équipe italienne. On va toujours avoir plus peur de les rencontrer parce que donc on est toujours un petit peu frileux, alors que non, on a des joueurs en France qui sont largement capables de rivaliser avec des grandes écuries.
Bien sûr. Le problème, c'est qu'on peut pas les garder, donc les équipes sont en reconstruction chaque année et puis il manque effectivement cette maturité, cette expérience arrivée à un certain stade de la compétition. Hein. Ouais. Le meilleur exemple, c'est Lille, qui était en Ligue des Champions il y a 3 ans. Lille est en reconstruction, ils ne font plus de Coupe d'Europe. S'ils reviennent, il leur manquera ce petit brin d'expérience dans 2-3 ans. Quoi.
C'est
classique. Quoi. C'est la force de Lyon. Le problème, c'est que Lyon, il n'arrive pas à franchir ce cap. Des quarts et des demi, enfin, les quarts, ils y sont, mais passer en demi, c'est ce qu'il faut pour que Lyon soit définitivement aimé dans le cœur des Français.
Alors, je pense qu'il
faudrait, par exemple, qu'ils soient battus 2-0 à Barcelone et qui gagne 3-0 à Lyon. Voilà, ça, ce serait le match référence au deuxième tour qui leur permettrait d'être enfin définitivement dans le cœur des Français. Quoi.
Mais je pense qu'ils y sont déjà pour une bonne partie, parce que ça fait quand même quelques années qu'ils nous offrent avec leur parcours.
Oui, sur des premiers tours, mais.
Après, c'est vrai que ça manque un petit peu sur la fin, mais je pense que oui, c'est peut-être ce qui manque actuellement.
Alors, Pierre, ça se présente comment ces matchs de Coupe d'Europe pour les équipes françaises? On l'a dit, Barça-Lyon, c'est du 100 contre 1.
En fin d'année 2008, on aurait dit peut-être que Barcelone va arrêter sur sa lancée, va se stopper, va arrêter de marquer 5 buts par match. Mais ça continue. Ils vont battre tous les records de la Liga, ils vont battre tous les records. Donc, espérons qu'ils vont arriver en méforme pour Lyon. Mais je pense quand même que ça va être très difficile pour Lyon. Et même si Lyon réalise l'exploit face à Barcelone, je pense qu'après, s'ils tombent sur une grosse écurie en quart, telle Chelsea ou Juventus,
ça peut être le déclic.
Je sais pas, mais.
Ça peut être le déclic.
Et puis, est-ce qu'ils ont l'effectif pour? Je sais pas si c'est cette année. Peut-être qu'ils ont loupé le coche il y a 2 ans face au Milan AC, je me rappelle.
Ouais. Là, je suis d'accord, c'était l'année ou jamais. Là.
Mais pour ce qui est de la Coupe de l'UEFA, avec 4 clubs engagés. J'espère que les clubs français vont vraiment jouer le jeu, parce que les entraîneurs arrivent toujours avec une certaine frilosité en Coupe de l'UEFA. Non, on se préserve pour son championnat, on veut être placé en Coupe d'Europe, mais après ils jouent la Coupe d'Europe et ils la jouent pas entière,
ils
la jouent
pas. C'est incroyable.
Donc mais je pense quand même qu'avec Bordeaux et Marseille, ils vont jouer les premiers rôles, et que même le Paris Saint-Germain,
Marseille, il en reste plus que ça de toute façon en dehors du championnat.
Exactement.
Bordeaux,
ça serait bien pour le championnat français, parce que si on, à l'indice l'UEFA aussi, si on marque pas des points, on risque après de baisser. Important. Il faut quand même aller loin.
Donc, espérons-le. Ouais, on sera de tout cœur avec le français. Cette semaine, ce sont donc les demi-finales de Coupe de la Ligue.
C'est ça, avec.
Il y a Nice-Van
qui est vraiment moins alléchant que l'autre match, faut le dire. Mm-hmm. Parce que Paris-Bordeaux, c'est vraiment. À ce stade de la compétition. C'est le choc. Puis c'est la revanche pour Paris, parce que quand ils sont se prêts 4-0 à Bordeaux, ils vont vouloir gagner le match à tout prix. Puis ils ont plus que 2 matchs pour accéder en coupe de l'UEFA, donc c'est important.
Mmh. Donc, et puis Paris qui est encore sur les
sur ils sont les sur les quatre tableaux.
Il faut le dire quand même.
C'est par rapport à leurs deux dernières années, faut le noter parce que ils sombraient l'année dernière en championnat. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue, mais cette année être sur les quatre tableaux, puis ils ont pas un banc pléthorique.
Non.
Donc c'est quand même un bel exploit. Espérons qu'ils aillent loin en Coupe de l'UEFA.
Et ils auront un nouveau président cette semaine.
ça fait beaucoup parler. Hein,
alors
quand même.
Pierre, il y a des scoops, il y a des infos. Sébastien Bazin, non?
Sébastien Bazin, je pense qu'il va être président, mais il va être assisté.
Oui.
Il va être assisté. J'ai pas retenu le nom du, parce qu'il a un nom assez difficile, mais c'est déjà quelqu'un du Paris Saint-Germain qui est directeur délégué, je crois, qui va assister.
Ça sera pas notre confrère Carl Olive dont on parlait
avant. Non, ça, j'ai vu ce matin avant de venir à la radio que ça allait être quelqu'un déjà au sein du Paris Saint-Germain qui va assister Sébastien Bazin. Donc, mais ce qui est important, c'est de quand même relever que ça a pas affecté sur le terrain les performances du Paris Saint-Germain.
Voilà.
C'est important.
C'est ça qui est assez
important. On aurait pu croire que dans les têtes, ça aurait pu jouer. Mm-hmm. Pour certains joueurs comme Claude Makélélé ou je sais pas, Julie Ouvaro, qui étaient quand même des joueurs aidés par Charles Villeneuve. Donc,
c'est là qu'on voit que c'est une autre équipe.
Voilà, exactement. L'année dernière, ils n'auraient pas gagné 2-0 contre Caen.
Absolument. Vous êtes pour la vidéo ? Pour le domaine professionnel, on l'a dit, hein, pour les amateurs, c'est impossible. Mais dans le domaine pro, est-ce que, comme le dit Platini, l'humain doit rester maître?
Je serais plus pour cette solution-là. Oui. Mais après,
comme ça, on admet l'erreur, fatalement.
Voilà, on admet l'erreur, et puis on joue, et puis. Mais c'est vrai qu'il y a des erreurs flagrantes par moment qui nous poussent à nous dire il faudrait quand même qu'on ait un système qui nous permette, comme dans le rugby, de clarifier les choses. Mais je serais plutôt de l'avis de Michel Platini sur ce sujet-là, je pense.
Ah oui, c'est vrai que, il y a un énorme problème dans l'arbitrage français actuellement, alors pour X raisons, chacun, donc, à ses versions. Un petit mot sur l'équipe de France quand même.
Écoutez,
Raymond Domenech.
tout le monde a ses idées. Sur, c'est vrai qu'on est tous des entraîneurs des sélectionneurs en puissance.
On va aller au Mondial 2010.
J'espère bien. J'espère bien, mais bon, après j'aimerais bien qu'on y aille avec, comme je disais tout à l'heure, avec l'envie de la gagner.
Ah oui.
Ouais, parce que c'est vrai que
quand on a Ribéry à droite, Benzema, Gourcuff et puis Henri à gauche.
Bah théoriquement ça doit
passer quoi.
Ça doit passer.
Il y a derrière, c'est un peu plus difficile.
C'est derrière en ce moment, c'est
ça.
Pas.
Hein, c'est ça. Le problème c'est ça. Mais c'est vrai que finalement il y a un potentiel. Vous sentez quand même, il n'y a pas d'adhésion, mais enfin le public il est très versatile.
Oui, il peut vite inverser la tendance et puis mais ça fait quand même 10-15 années où on a quand même relativement une équipe de France qui doit être compétitive sur tous les tableaux et à tous les plans. Et qui doit quasi être intouchable parce qu'il y avait très peu d'équipes européennes qui pouvaient rivaliser au niveau sur papier. Après, dans la construction du jeu et dans le reste, c'est vrai que c'est un peu plus.
Et puis la qualification à la Coupe du Monde vont être déterminantes pour Benzema et Gourcuff qui peuvent choisir leur orientation en fonction de ça. Hein, parce que
c'est vrai.
Est-ce qu'ils prendront le risque de partir dans un club? Bon, ils seront titulaires, mais ils joueront pas non plus tous les matchs. Il y aura un turnover important. Est-ce qu'ils resteront dans leur club pour aller jusqu'au Mondial? Là aussi,
ça jouera après le Mondial, ça, je pense. Oui. La décision des deux joueurs. Même si Johan Gourcuff a de fortes chances de rester à Bordeaux, je pense, parce qu'il lit son avenir avec Laurent Blanc.
Donc,
comme Laurent Blanc a re-signé pour 2 ans, peut-être que on verra encore une perle dans le championnat français. Si ces deux joueurs partent, quand même, ça serait triste pour le championnat de France.
Un petit mot sur Clairefontaine. Michael, vous y avez été à Clairefontaine?
Oui, j'y ai été faire.
Parce que je sais que beaucoup d'éducateurs suivent des formations. C'est un outil qui est fabuleux quand même.
Ah oui, non, c'est magnifique. C'est riche à la fois en compétences, c'est riche en installations, c'est riche à tous les niveaux. Donc c'est vrai que c'est un outil super important, et surtout dans les Yvelines, donc c'est très bien.
Faut être breveté, hein, je crois, pour être éducateur, donc c'est un véritable travail.
Ah oui, c'est un véritable travail. Oui, c'est vrai qu'on passe par pas mal de temps et c'est vrai qu'on fait un petit peu ceinture sur les matchs de foot à la télé parce que sinon on passerait notre temps. Mais c'est vrai que si on veut faire les choses sérieusement, il y a les préparations d'entraînement qui se font pas en 5 minutes, il y a la programmation qui se fait pas en 5 minutes. Et donc forcément ça prend du temps et ça prend du... Mais bon, quand on est motivé, ça va tout seul.
Bien que les matchs de foot, vous devez un peu les vivre différemment. Il y a l'œil du technicien. On les vit un peu différemment d'un journaliste qui les voit un peu différemment, quoi.
C'est vrai qu'on les regarde plus du tout de la même manière. À partir du moment où on coach sur le terrain, après on a un regard différent à chaque fois sur chacun des matchs. On n'est pas en train d'observer.
C'est pour ça que des fois nous on dit que c'est des matchs moyens, alors que les entraîneurs eux disent que c'est des bons matchs parce que eux ils ont vu le côté tactique, ils ont vu que tactiquement il n'y avait pas eu de faille, donc ils se sont dit niveau football c'est très bien, alors que c'était peut-être pas très spectaculaire, quoi.
Non, c'est vrai qu'on a un œil différent. Après, on a l'œil des compétences. Moi, je dirais que moi, j'évolue avec un groupe de district. Forcément, j'ai peut-être pas le même avis ou le même œil que quelqu'un qui va évoluer à un niveau régional ou même supérieur.
Très bien. Bah, écoutez, merci. Hein, et puis, on va donc simplement en finir avec cette émission. Il y a un petit rappel, une petite annonce à faire avant de finir. Vous avez un site internet, faut pas l'oublier.
Oui.
Hein, donc, BUC. Et puis, donc, dire que si on veut venir vous rejoindre, où est-ce qu'on s'inscrit? On vient directement au stade?
Il faut venir directement au stade. Oui. Et puis, à ce moment-là, trouver sur le site de BUC le numéro de la présidente qui arrivera à vous orienter, à vous dire où il faut se présenter pour vous inscrire.
Très bien, en tout cas merci, et puis merci d'être venu
seul
représenter le club dans des circonstances très exceptionnelles, très particulières, et puis on va encore dédier cette émission, puis tous nos voeux au futur bébé qui va arriver dans quelques heures.
Merci beaucoup.
Voilà, merci en tout cas, merci Pierre.
Merci Philippe.
Rendez-vous la semaine prochaine, donc la Coupe de la Ligue.
Coupe de la Ligue et puis championnat, le championnat
et puis,
encore.
Et puis je l'ai dit, un beau week-end de sport parce que
il y a je file voir la finale de Nadal Federer là, moi.
Ah oui,
je m'en vais.
Merci. Voilà, allez, la pause musicale et puis le générique de fin de Tribune Foot, et puis on se retrouve nous la semaine prochaine 9h-10h avec Jean-Loup Leplat pour nous parler du dos, et puis 10h-11h avec encore ce même Jean-Loup Leplat pour nous parler des éducateurs d'Île-de-France de foot. Voilà. Bon dimanche. Bonne semaine. Cette fois-ci, c'est bien juré, c'est bien promis. C'est pas de la désinformation. Il y a bien Radio Village. Et en plus, on aura les reines du Muguet. Bon dimanche.
Stiamo qui, stiamo là. C'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu, non ci sei, e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, ma va là, che lo sai, mi starà vicino tu, sei più bella che mai. Baci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, che mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, fossi mia, se mi fai l'amore ti canterò, come se fossi una canzone, canterò.